Alors, nous sommes dans la partie gauche du texte de votre référence numéro 2. Et à peu près 13 lignes à partir du début. Dans l'endroit qui est un petit peu en renfoncement, il y a marqué Umehechan. Vous l'avez ? Umehechan nov'im kol hakshayim vehamashberim halalu. À gauche, complètement à gauche. Voilà, la dernière colonne à gauche, à peu près 12-13 lignes. Umehechan nov'im kol hakshayim vehamashberim halalu. La question qui se pose, c'est d'où viennent toutes ces difficultés? Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que nous parlons des difficultés du changement d'étape, du changement de grandeur d'âme, que l'individu Israël, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, doit changer complètement sa vision des choses pour arriver à vivre au niveau de son peuple et plus seulement au niveau de son individualité. Donc il y a un switch à accepter, à admettre et à vivre. Mais il y a une grande difficulté, on peut le comprendre. Jusqu'à maintenant, nous vivions comme des individus, et à partir de maintenant, la Neshama qui nous est donnée, au moment où nous rentrons en Eretz Israël, c'est une Neshama d'un peuple tout entier, de la nation d'Israël. Donc imaginez-vous le changement radical entre l'individualité et la grande Neshama du peuple tout entier, qui nous rentre dedans la première nuit où nous arrivons en Eretz Israël. On change de Neshama. Donc, c'est ce qu'on avait étudié dans les cours précédents, c'est qu'il y a un changement de Neshama, et donc il y a une difficulté. Malgré tout, le Rav pose la question, mais Echanovim kolakshaim vehamashberim alalu, donc d'où viennent toutes ces difficultés? Kemo etzel hayachid, ken etzel haklal. De la même manière que ces difficultés vont se retrouver chez l'individu, ces mêmes difficultés vont se retrouver dans la communauté d'Israël. En Eretz Israël, Migdulata ou Migdushata shel haaretz, et d'où vient cette difficulté? Regardez la réponse, de la grandeur et de la sainteté de la terre d'Israël. Autrement dit, à cause, j'allais dire grâce, à cause de la sainteté et de la grandeur de la terre d'Israël, qui est quelque chose d'inimaginable, eh bien, l'adaptation est difficile. On doit vivre au niveau de cette terre, et c'est difficile de vivre au niveau de cette terre. Cette terre est tellement profonde, tellement élevée, tellement surnaturelle, que c'est très difficile de s'habituer à cette terre, de mettre son niveau homme au niveau de cette terre qui est en fait une terre divine. De là, je vous rappelle aussi la définition de Eretz HaKodesh, qui malheureusement est mal traduit. Nous traduisons Eretz HaKodesh, la terre sainte, alors que la véritable traduction c'est la terre du Saint, béni soit-il. Eretz Shel HaKodesh, et pas Eretz HaKedosha. En français, la terre sainte, c'est une terre qui a subi une sainteté, alors que Eretz HaKodesh, c'est une terre qui appartient au Kodesh. Et le Kodesh, c'est l'éternité, c'est HaKadosh Baruch Hu, béni soit-il. Donc la terre qui lui appartient, sa terre, si c'est sa terre, elle a un degré qui est très divin, parce qu'elle doit être à son niveau. Elle doit être quelque chose d'élevé, d'extrêmement élevé, d'infini, de l'ordre de l'infini. Alors comment moi, l'homme d'Israël, avec la grande âme que j'ai reçue, même si elle est très grande, comment je peux vivre à ce degré divin? Là aussi, nous sommes obligés de dire qu'à l'intérieur de nous, hommes d'Israël, nous avons cette capacité, nous avons été fabriqués avec cette matière nécessaire pour vivre sur cette terre. Donc il y a une correspondance entre la terre d'Israël, le divin, et le peuple d'Israël qui vient sur cette terre. S'il n'y avait pas de correspondance, il y aurait eu rejet. Le fait que nous pouvons vivre sur cette terre, que cette terre donne des fruits lorsque nous venons sur cette terre, la preuve est que nous avons une correspondance et que cette correspondance donne des fruits. Et l'autre preuve, c'est que toutes les nations qui étaient sur cette terre avant nous n'ont jamais pu faire fleurir cette terre. La terre ne donnait rien, car il n'y avait pas de correspondance. Ils étaient peut-être ici, ces hommes étaient là, ces nations étaient là, mais la Terre ne donnait rien car il n'y avait pas de correspondance. Donc, la réponse est, la difficulté chez l'individu et chez la communauté d'Israël vient à cause de la grandeur et de la sainteté de cette terre d'Israël. Migdulata ou migdushata shel nishmatenu hamitradeshet ba'aretz, et non seulement au niveau de la terre, de la sainteté de la terre, mais de la sainteté de notre âme qui a grandi, comme nous avons dit tout à l'heure, on nous a changé d'âme, et donc ça aussi il faut s'habituer. Moralité, nous sommes dans un nouveau degré, dans une nouvelle cour de récréation. Il ne s'agit plus de jouer comme nous étions lorsque nous étions petits, entre guillemets. J'utilise là des termes de la Kabbalah. Être petit, c'est être sans ce degré de l'âme profonde d'Israël et vivre comme un petit avec des blancs et des noirs. Je t'aime, je ne t'aime pas, tous les 5 minutes, comme un enfant. Et grandir à un degré beaucoup plus subtil, où entre le blanc et le noir, il y a beaucoup de gris clair et de gris foncé. Donc l'accès à la terre d'Israël nous demande une élévation de notre être afin de vivre au niveau le plus haut de notre neshama. Et cette neshama, une fois qu'elle est en nous, puisque nous avons dit, d'après le Rav Frida, que la première nuit où l'on dort en Eretz Israël, notre neshama change, on nous prend l'ancienne neshama, on nous redonne une nouvelle neshama. Eh bien, à l'intérieur de nous maintenant va vivre cette nouvelle neshama. Ce qui va, dans le premier matin qui suit cette nuit, va commencer à avoir une exigence. Cette neshama va exiger de nous un autre niveau. Okay? Donc elle va nous donner, elle va émettre une émission. Okay? Grandis, tu ne peux plus vivre comme avant-hier. Tu dois vivre maintenant avec ta nouvelle neshama, au niveau de cette nouvelle neshama.
Ça concerne tous les Israélites ou bien...
Tous les enfants d'Israël, oui.
Les enfants, seulement les enfants.
Oui, oui, oui. Non. Ok, Slicha.
Ceux qui sont exilés aussi.
Ceux qui reviennent. Oui, mais encore une fois, l'accès sur la terre, rappelez-vous de la clé. Hamakom Gorem. Le Rav dit, c'est le lieu qui fait le changement. Autrement dit, c'est pas parce que tu étudies la Torah plus sérieusement ailleurs que tu auras cette nouvelle neshama. C'est le lieu, c'est la terre d'Israël, c'est le fait de dormir ici, physiquement, dans le sens le plus simple, de dormir sur cette terre, qui va te permettre ce changement d'âme.
Alors, dans ce cas, comment ça se fait que certaines personnes soient rejetées par la terre ?
Parce que ces personnes-là, qui acceptent, qui reçoivent cette nouvelle âme, ne veulent pas vivre à ce niveau. Exactement. Donc là arrive le choix personnel. Donc il y a deux niveaux, tu as bien fait de préciser... ce point-là, l'âme nous est donnée. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça ne dépend pas de ce que tu veux ou tu ne veux pas. Cette âme est donnée. Tu te réveilles donc le lendemain matin de ton arrivée en Eretz Israël, et là commence quoi ? Ton choix. Quel est ton choix ? Vivre selon cette grandeur d'âme ou refuser de vivre selon cette grandeur d'âme ? Est-ce que les choses sont claires ? Ken ? Vous êtes avec moi ou vous êtes avec tout ce qui se passe à chaque fois, à chaque instant ?
On va vivre en Israël, c'est-à-dire s'installer ici, dans le sens d'habiter ici, quand on est en vacances.
C'est pas la même chose. Non, c'est avec la volonté de venir, de changer de vie, d'établir ton système ici, sur cette terre. Donc moralité, ton choix va être le lendemain, est-ce que je vis selon ce degré que j'ai reçu, malgré moi ? Ou est-ce que je refuse, je l'étouffe, Ken, à l'intérieur de mon être, je l'empêche de sortir toute ma vie ? Alors, malheureusement, Chas v'Shalom, ceux qui empêchent cette lumière de sortir, cette grande neshama de sortir, eh bien, c'est pas que cette neshama va disparaître, elle est en eux. Elle va peut-être passer d'ailleurs dans leurs enfants et dans leurs petits-enfants, c'est sûr. Et donc, si c'est pas lui qui a pris conscience, c'est son fils. Et si ce n'est pas son fils, c'est son petit-fils. De toute façon, quelqu'un va revenir de toute façon à la fin du processus et il va prendre conscience et il va dire... je n'ai pas compris pourquoi mon père ou mon grand-père n'ont pas compris ce secret. Okay? Moi, je veux vivre selon ce niveau-là. Et plus les générations avancent, plus nous avons la conscience que nous avons changé d'âme, et plus nous avons le choix, qui est de plus en plus clair, de vivre selon ce degré-là. Et vous, vous avez la chance d'étudier ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rapporte ce cours-là ? Quel est le gain de ce cours ? C'est que les choses se passent, mais les gens ne savent pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas ce secret. Vous, vous avez la chance. qu'il s'est passé quelque chose en vous quand vous êtes arrivé, mais vous êtes en train de l'étudier en plus. Donc, Riba Yetera Noda'at Lahem, vous avez un choix, le choix du roi. Vous savez exactement expliquer le processus qui vous arrive. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez participer activement à ce processus parce que vous l'étudiez. Et ça, c'est la valeur de cette étude, de l'étude donc de la Emouna. C'est une étude clé, nécessaire dans notre génération, sans laquelle on ne peut pas comprendre le processus de la Géoula, de la rédemption du peuple d'Israël. On continue. Im kibbutz galuyotenu. Donc, lorsque nous sommes en train de rassembler nos exilés. Kibbutz galuyot. Kibbutz, ça vient du mot rassembler. Galuyot, de tous les exils. Nous revenons aujourd'hui de 100 pays. 100 pays. Comprenez. Ça veut dire que les gens que vous voyez ici en Eretz Israël reviennent de pas moins que 100 pays dans le monde. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Les juifs du monde entier entendent un jour, dans leur lit, « Fais tes valises et va-t'en », sans qu'il y ait une émission radio qui parle de ça. C'est un réveil intérieur. Et ils viennent, comme s'il y avait un rassemblement de tous les coins de la terre. Alors que dans la sortie d'Égypte, nous étions sortis d'un pays. Aujourd'hui, nous sortons de 100 pays. Alors regardez la Géoula d'Égypte par rapport à la Géoula que nous vivons aujourd'hui, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui, cette Géoula, que la Géoula de l'Égypte.
Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on ne peut pas comprendre les choix de nos pères et de nos grands-pères ? Peut-être pas.
Bien sûr que tu peux le dire. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas les juger.
Non, pas les juger. Mais on peut dire, pas les comprendre dans le sens « Ah, je vois pourquoi il a fait ça, il aurait dû. »
S'il y avait la possibilité, tu peux te poser la question, Bevadaï.
Mais s'ils n'ont pas fait, c'est qu'il
est... C'est là. C'est alors, mais tu peux, toi... Pourquoi ce n'était pas le temps ? Si le temps était de venir, c'est là. Non. Aujourd'hui, c'est le temps de faire des choses et les gens choisissent de rester encore. Donc tu peux te poser la question.
C'est pour ces âmes-là, cette lignée d'âmes-là, c'est pas le temps de faire.
Non. C'est trop facile. Alors tu vas me dire que celui qui est tué, quelqu'un, c'était son temps de le tuer. Comment tu vas le juger ? Et le voleur, c'était son temps de voler.
Oui, mais là, ça c'est... Non, Dieu nous a donné la possibilité de juger ces gens-là.
Mais la même chose au niveau du non-acte. Si par exemple tu pouvais faire quelque chose et tu ne l'as pas fait, tu seras autant jugé.
Oui, mais c'est pas nous qui jugeons.
Je n'ai pas dit de juger. J'essaye de comprendre. C'est pas un jugement, mais tu essaies de comprendre. Tu peux te poser des questions. Tu as le devoir de te poser les questions pour ne pas faire des erreurs. Les explorateurs, c'est nos pères. J'ai le droit de me poser des questions pourquoi ils sont arrivés à une conclusion de ne pas monter en terre d'Israël. Et j'ai le devoir de ne pas refaire cette faute aujourd'hui. De ne pas être un nouvel explorateur. Mais ce n'est pas à moi de les juger, bien entendu. Im kibbutz galuyoteinu, veshivatenu la'artzenu. Donc le retour à notre terre, mitrolel banu shinui mahaprani. Il y a en nous, s'opère en nous, un changement révolutionnaire, mahouti, complètement intérieur, essentiel, c'est-à-dire de l'ordre de notre essence. Amok me'od, très profond. Regardez le souci du Rav de nous faire comprendre que c'est quelque chose qui est au fin fond de notre être, le plus profond. Mais quelque chose de grandiose, quelque chose qui nous change complètement de niveau. Tahalichim arukim shel leida. Ce sont des processus nombreux, des étapes d'accouchement. C'est un véritable accouchement. Vetria veyetzira mechudeshet. C'est une résurrection. C'est une formation renouvelée. Tout est nouveau, comme si un nouveau bébé venait de naître. Nous sommes une nouvelle génération, comme une nouvelle, un nouveau genre de graine. Une nouvelle graine. Nous ne sommes pas les mêmes juifs qu'il y a 100 ans. C'est une nouvelle graine, une nouvelle race d'Israël. Quelque chose de neuf. Akruchim betofat levay rabot. Mais il y a beaucoup de difficultés qui accompagnent ce processus. Et il y a des... Comment on dit en français ? Tofaot levay. Quand on prend un médicament, nous avons des effets secondaires. Voilà le mot. Il y a beaucoup d'effets secondaires ou bemeoraot nafshim vechevratim qui vont toucher et l'âme individuelle et au niveau du collectif et au niveau de la société tout entière. C'est-à-dire il y a un chamboulement Ça va se faire avec difficulté. Ce n'est pas facile. Ovrim alenu, tout ça, ça va nous passer dessus. Ça va, en fait, nous perturber dans beaucoup de domaines de notre vie. Ad, jusqu'à quand alors? Le histaglutenu. Le histagel. Qu'est-ce que c'est le histagel en hébreu? L'hiyot mesugal. Jusqu'à ce que nous soyons aptes, capables, propices, au niveau. El hapnim. Donc on doit s'adapter. El hapnim achadashot reuyot lanu. À notre nouveau visage. Imaginez-vous qu'on nous a changé en fait. On était endormis, on nous a fait une opération, on se réveille, on se regarde dans le miroir. Et il nous faut combien de temps pour nous reconnaître, pour nous accepter avec notre nouveau visage, notre nouvelle neshama, notre nouveau cœur, quelque chose de nouveau. Et tu peux te regarder dans le miroir et te faire peur, te dire « mais je ne suis pas moi, c'est pas moi ». Et on te dit « non, ça c'est le vrai toi ». Jusqu'à maintenant tu étais déguisé, maintenant tu es devenu le vrai toi. On t'a enlevé le masque, mais il va te falloir un petit peu de temps pour t'adapter. Ça va te traumatiser au début. Tu vas avoir peur de toi-même. Et qui nous a donné ce nouveau visage, notre vrai visage? La sainteté de la terre. Cette terre nous a donné le vêtement nouveau qui doit nous correspondre lorsqu'on arrive ici. Donc c'est comme si on rentrait maintenant dans un nouveau système, on nous change nos vêtements complètement. On va te changer ton disque, on va te changer ta carte mère, on va te changer tes vêtements, on va te changer ton apparence, on va te changer ton écran. Tout va changer. Donc tu vas voir en fait un nouvel être, comme un robot nouveau, mais ce n'est pas un robot, il est plein de vie. Avec une énergie nouvelle, avec des aspirations nouvelles, avec une tête nouvelle, et donc tu dois t'habituer à ce que tu es devenu ou redevenu. Parce qu'en réalité c'est ta vraie essence.
Donc c'est la même neshama ?
Non, on t'a changé de neshama. Tu as eu une neshama individuelle jusqu'à maintenant. Maintenant, on t'a donné la neshama du collectif. C'est-à-dire, tu as une neshama qui est tellement grande que... Est-ce que vous avez senti un jour dans votre cœur que vous êtes tellement heureux que vous avez l'impression que votre corps ne suffit pas? Que vos poumons doivent... la grandeur de votre corps, les limites de votre corps ne suffisent pas à l'âme que vous avez à l'intérieur. Mais c'est exactement ça.
On en a la conscience de ça.
Et justement, l'étude nous donne la conscience. On peut ressentir sans comprendre. En étudiant ce qui se passe, on peut se dire rétroactivement même, maintenant je comprends ce qui s'est passé en moi.
Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui arrive.
Il ressent les choses, s'il est sensible, alors il peut ressentir les choses. Il va agir autrement de ce qu'il était jusqu'à maintenant, même sans étudier. Maintenant, ça dépend de sa sensibilité, de sa délicatesse, pour savoir décoder les choses. Là, nous avons la chance d'étudier en même temps le processus. Okay? Qu'est-ce que tu posais comme question?
C'est pour ça qu'il a envie de partager. En
fait. Nachon, tu es tellement avec... Et ça déborde tellement que tu as envie... Okay? Il y a l'autre aussi qui compte. Je vais vous expliquer, parce que ça peut être entendu comme des valeurs qui n'ont aucun rapport avec notre réalité. Comment ça se manifeste réellement? Mais tout simplement, on commence à faire cas des autres. Notre peuple devient plus important pour nous. Je me fais du souci à chaque fois que j'entends qu'un soldat a eu quelque chose. Je me fais du souci à chaque fois que je vois que mon frère Israël a subi quelque chose. Je me fais du souci de savoir comment mon pays, ma nation tout entière est en train d'évoluer. Je ne vis pas à des milliers de kilomètres d'ici en regardant la télé. Je vis les événements. C'est-à-dire que notre cœur a changé, nous sommes devenus de plus en plus sensibles. D'ailleurs, c'est l'une des prophéties de Yéhézkel. Je vous enlèverai votre cœur de pierre pour vous mettre un cœur de chair. Autrement dit, vous allez être beaucoup plus sensible, beaucoup plus perméable que vous étiez avant. Ok.
Juste pour phraser un peu ce que vous avez dit, voir si j'ai compris. On a une nouvelle âme collective et donc c'est en adaptant ce choix d'avoir ce lien avec la collectivité d'Israël qu'on montera par-dessus ces changements révolutionnaires, ces secondaires, ces changements. Donc...
Tout à fait. On va moins souffrir si on accepte ce changement. Okay. Alors, la souffrance vient du non-vouloir changer. C'est-à-dire, tu as reçu cette nouvelle âme, malgré toi, tu n'y peux rien. Ça, c'est, on en a dit, quelque chose de divin qui nous descend d'en haut vers le bas, sans même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça ne dépend pas de ce qu'on veut ou on ne veut pas. Le seul choix, c'est de vivre selon ou pas. Si tu vis selon ce degré-là, tu souffriras moins. Si tu refuses et tu as des difficultés de monter à ce niveau-là dans ta vie, eh bien, tu souffriras plus parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que tu fais et ce que tu es véritablement, entre l'être et le paraître. Est-ce que les choses sont claires ? Yesh beze chok. Donc il y a ici une loi, j'allais dire un axiome. Chok tivi. Un axiome naturel. Une loi naturelle. Keshem she'anichnas. Les aklim shoné, de la même manière que lorsque l'homme va rentrer dans un nouvel aklim, dans un nouveau, comment on dit aklim en français ? Non. Et... on va dire environnement. C'est comme si on rentrait par exemple dans une serre. Et tu vas maintenant en Afrique. La température, tout va changer. Tu vas avoir de l'humidité dans l'air. La clim, non ? Un climat, voilà. Tu vas changer de climat. Alors, keshem shenichnas l'aklim shone, ol mitachat lamaim, de la même manière que lorsque tu rentres par exemple sous l'eau, tu vas faire du sous l'eau, tu vas faire de la plongée. Ovrim alav becher shinuim rabim. Tu dois, ton corps va s'adapter à l'endroit où tu te trouves. Tu es enveloppé d'un nouvel élément. Donc ton corps va réagir selon le nouvel élément dans lequel tu es rentré. On est bien d'accord. Ken hadavar kan. Exactement la même chose ici. Ça veut dire qu'en réalité, quand on rentre dans l'ère d'Eretz Israël, imaginez-vous que vous rentrez dans un autre monde. C'est une nouvelle porte qui vous amène dans un monde parallèle, différent de celui dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant. Alors ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du feu, c'est quelque chose de spirituel. C'est comme si on rentrait dans du divin. Et donc notre corps va lui aussi devoir s'adapter exactement quand tu rentres dans l'eau ou quand tu rentres dans un nouveau climat. Et donc ton corps va subir, malgré lui, des changements. Ken hadavar kan. Him ikansenu le'eretz Israël. Donc dès qu'on rentre, dès qu'on pénètre cette terre, harei nichnasim anu le'metziut acheret. On rentre dans un nouveau domaine. On rentre dans une nouvelle parenthèse, dans une bulle spéciale qui s'appelle Eretz Israël. Klalit, cette bulle est collective. Cette bulle est de l'ordre de l'âme du peuple d'Israël et pas seulement de ses individus. Quelque chose d'immense, de divin. Eliona vekdosha, et donc c'est supérieur, c'est élevé et c'est très saint. Ou mechayevet. Le seul problème, c'est qu'elle exige. Tu rentres dans un nouvel élément qui exige de toi, bereach, obligatoirement, tahalichim shelit bagrut, de devenir mature et adulte. Tu ne peux plus rester un enfant que tu étais jusqu'à maintenant. L'exil, c'est rester un enfant. Rentrer en Eretz Israël, c'est devenir adulte. C'est grandir, c'est naître. C'est ne pas rester dans le ventre de sa maman. Si tout à l'heure le Rav nous fait la comparaison avec une naissance, c'est parce que tout simplement, les sages nous expliquent que le désert, c'est comme être dans le ventre de la mère. Notre parcours du désert, avant de rentrer en Eretz Israël, dans l'histoire biblique, eh bien c'est la même chose dans notre histoire moderne. Être dans l'exil, c'est encore être dans le désert. Et passer d'une étape à une autre dans le désert. Quitter Paris pour aller à Nice. Quitter Nice pour aller au Canada. Quitter le Canada pour aller à Montréal. Et dans le Canada. Et après à New York. Et tout ça, c'est rester dans le ventre de sa mère et changer de place à l'intérieur du ventre. Mais tu n'es pas encore né. Quand tu viens en Eretz Israël, c'est la première fois où tu nais. Où tu sors du ventre. D'une part... Rester dans le ventre, c'est très rassurant. On te nourrit de la maman céleste. Tu as un cordon qui te nourrit, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est beaucoup plus facile de vivre à l'extérieur. Mais tu es dans le ventre de la mère, tu n'es pas encore né. Dès que tu nais, il y a un découpage. On te coupe le cordon ombilical. On te dit maintenant respire de par toi-même. Et tu as un moment de panique. Tu as l'impression que tu vas mourir. Et tu commences à pleurer. On te jette dans un nouveau monde et à partir de maintenant, tu vas te débrouiller. Ça va être difficile. Il va y avoir des gens autour de toi. Il va falloir que tu te battes pour trouver ta place dans la famille, dans la société, dans le monde, dans le travail, dans l'étude, dans tout. tout devient, avec une responsabilité, tu deviens mature. Alors c'est beaucoup plus dur, mais c'est la première fois où tu es véritablement un homme. C'est pour ça qu'on ne compte pas les jours du bébé, si ce n'est qu'à partir du moment où il est né. On ne dit pas aujourd'hui, cet enfant a 9 mois et un jour. Non, les 9 mois qu'il était dans le ventre ne sont pas comptés. On est d'accord. C'est comme si toute notre vie en exil ne comptait pas. Notre naissance, c'est quand on est arrivé sur cette terre. Okay.
Est-ce que, en sachant qu'on change d'âme quand on vient en Eretz Israël,
okay,
est-ce que c'est compté comme une tchouva? Est-ce que ça répare nos fautes?
Tout à fait. Tu n'étais pas dans les cours d'avant. Et dans les cours d'avant, nous avons dit clairement que nous disent les Chachamim dans la Kabbalah, notamment le Chida, dans Chesed le Avraham, que lorsque tu viens de Chutz La'aretz, ici, tu es considéré comme une nouvelle âme, à tel point que tes fautes passées sont complètement réparées, car tu es quelqu'un d'autre.
Donc, on peut estimer qu'elle est faite, là, tu vois.
Donc, c'est une teshuva. Tout à fait. Retourner en Eretz Israël, c'est la plus grande des teshuva, c'est la base même de la teshuva. Ça, c'est une teshuva collective. Maintenant, ta teshuva individuelle doit monter à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu viens ici, malgré toi, tu as fait teshuva, car tu fais partie maintenant de ton peuple. Maintenant, au niveau individuel, tu dois commencer à prendre conscience et vivre selon ce niveau-là. Ça, c'est ta teshuva individuelle dans ce degré-là. Mais tu as fait teshuva. D'ailleurs, quel est le verset qui parle de la teshuva? Le retour en Eretz Israël. Pas par hasard. Veshavta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo. Im hiyeni dachacha bikze ha-shamayim, misham ikabetzcha Hashem Elohecha vehevi'acha el ha'aretz. Le verset de la Teshuvah parle tout simplement de « Si tu étais paumé au fin fond des cieux, je te ramènerai sur la terre. » C'est le verset de la Teshuvah.
Ça se trouve dans la Torah.
Dans Sefer Dvarim, dans le livre de Dvarim. Et d'ailleurs, le Rambam, dans le chapitre des rois, chapitre 11, dit clairement que le messianisme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le messianisme d'Israël? Et il cite le même verset. Que lorsque tu étais paumé au fin fond des cieux, Dieu te ramènera sur la terre. Et je vous ai déjà posé la question, pourquoi le Rambam et le verset lui-même dit au fin fond des cieux? On n'était pas paumé au fin fond des cieux, on était peut-être paumé au fin fond de la terre. Le Canada, c'est pas le fin fond des cieux, c'est le fin fond de la mer, de la terre. Okay, tu es là-bas. Okay. Alors les États-Unis, c'est pareil, ou la France. Alors pourquoi le fin fond des cieux? Eh bien, fin fond des cieux, parce qu'en réalité, là-bas, tu n'es pas sur la terre. Tu es encore dans le ventre de ta maman, donc c'est comme tu étais dans un niveau céleste. De la même manière que le bébé dans le ventre de sa mère, on ne peut pas dire qu'il était dans ce monde. Il est dans un degré spirituel, c'est les anges qui lui enseignent la Torah, il n'est pas ici.
Mais t'es inconscient.
Exactement. Quand tu viens ici, tu descends enfin sur la terre, tu viens de naître. Donc c'est un accouchement. D'ailleurs, résurrection des morts. Moralité, vous pouvez comprendre absolument que la résurrection des morts, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes des morts qui sont revenus à la vie. Qui êtes revenus à la vie. Vous étiez morts. Ve'hotzeti etchem ve'ha'eleti etchem mikivrotechem. Yecheskel 36. Je vous sortirai de votre tombeau. Ve'heveti etchem el ha'admatrem. Je vous poserai sur votre terre. Uchilitem. Et vous allez enfin vivre. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans des tombeaux.
On était morts ou on meurt? On a une nouvelle âme.
La nation d'Israël, okay, en dehors d'Israël, est dans un degré de mourance. Ça se dit en français?
D'agonie.
D'agonie. Elle ne peut pas se réaliser, donc elle est considérée comme être dans un tombeau. Rappelez-vous ce que les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Chaque tish abéav. Vous vous rappelez le 9 av, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient des trous, comme des tombeaux, ils allaient dormir dans le tombeau, tous, dans le désert. Et ceux qui se réveillaient le matin, ils disaient, bon, c'est pas pour cette année. Ils enlèvent un petit peu le sable et ils continuent à marcher. Et ceux qui ne se réveillaient pas, qu'est-ce qu'on faisait? On les couvrait, c'est tout. Ça veut dire que le désert est considéré comme un tombeau. Et chaque jour, on te donne peut-être encore une possibilité de continuer un petit peu. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester dans un état de léthargie, de mort, de sommeil? Okay? Le sommeil est considéré comme une mort. 1/60 de la mort.
Parce que c'était Moshe qui leur avait dit de faire ça,
ou c'était le l'Alaha. Tout le monde devait faire ça. Oui.
Quand on part au désert, il y avait une date pour tout le monde à même.
Une date de butoir, du sorti.
La sortie désert, la même pour tout le monde.
La date pour sortir, c'est-à-dire pour rentrer en Eretz Israël.
Ouais,
il n'y a pas tout sorti avant. Si, 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 si. Il y a des gens qui sont sortis avant, que ça n'a pas marché, bien sûr. Non, ça n'a pas marché.
Ça a marché quand ils sont sortis.
Nahon. Quand ça marche, c'est que Dieu le veut. Aujourd'hui, ça marche. Donc, Akadosh Baruch Hu est d'accord.
Nahon.
Oui, mais les quand il n'y a pas... Si tu me parles d'il y a 300 ans, où il n'y a pas de royauté d'Israël, de domination Israël, de gouvernement Israël, je te dis d'accord. Ce que je te dis, c'est à partir du moment où il y a un gouvernement, que la terre est de redevenue à nous, que nous sommes indépendants sur notre terre, là il n'y a plus aucune excuse. C'est-à-dire, les excuses sont peut-être avant, on est d'accord.
Mais il n'y a pas qui sont restés dans le désert.
Pardon ?
Est-ce qu'il y en a qui sont restés dans le désert ?
Bien sûr. Toute la génération est restée dans le désert. Il n'y a personne qui est sorti d'Égypte qui est rentré en Israël. C'est d'autres.
Non, la sortie. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas sortis du désert, qui sont restés?
Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Après 40 ans, il n'y a pas un de ceux qui est sorti d'Égypte qui est rentré en Eretz Israël.
Ils
sont tous morts. C'est une autre génération qui est rentrée.
Et ceux qui n'ont pas quitté Eretz Israël depuis la destruction du temps, depuis l'exil, comment ils sont considérés?
Ceux qui étaient plus de 20 ans, ceux qui étaient moins de 20 ans. Donc on va en réalité, si tu fais le calcul, la plupart des gens ne sont pas rentrés. La Gemara dit qu'il y a seulement un ou deux qui sont rentrés en Eretz Israël, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, Yoshua et Caleb. Okay. Alors, ceux qui ne sont jamais sortis d'Eretz Israël, le Chida fait référence à ce que vous êtes en train de poser comme question, et il dit que c'est la plus grande des valeurs. C'est celui qui naît en Eretz Israël, qui vit en Eretz Israël, qui n'est jamais sorti en Eretz Israël, même pas pour aller se balader, ni pour travailler, ni pour trouver une femme, et qui est mort en Eretz Israël.
Il y a un Sroud aussi. Bien vu,
mais ce n'est pas le même Sroud que celui qui est né. D'accord ? Celui qui est né, c'est le plus haut niveau. Celui qui est venu durant sa vie, c'est un niveau. Celui qui est venu durant sa mort, on l'a amené pour l'enterrer ici, c'est encore un niveau. Et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne des niveaux. D'accord ?
Avant la création de l'État, parce que
oui.
Vous avez ramené à la notion d'État d'Israël.
Tout à fait, tout à fait. Pas seulement de la terre.
Mais avant la création d'État, ceux qui n'avaient jamais quitté Eretz Israël,
eh bien,
avant la création,
ils ont un mérite extraordinaire d'avoir pu d'abord vivre, c'est pas évident, sur cette terre, et d'avoir vu ou leurs enfants ou leurs petits-enfants la résurrection du peuple qui revient sur sa terre. C'était quelques familles individuelles qui étaient là et qui ont pu passer entre les gouttes, mais ce n'est pas encore une domination du peuple.
Et ils ont reçu une nouvelle âme.
Oui.
Le jour de la création de l'État d'Israël,
tout
comme
à fait.
S'ils faisaient leur alliance.
Tout à fait, tout à fait. Ils sont montés en même temps que les autres à un nouveau niveau. Ok, tu voulais, avant, il voulait poser une question.
C'est pas juste pour ceux qui n'ont pas eu le choix, je veux dire, si les parents retournent en France
ouvre ta bouche, je t'entends pas.
Je dis, c'est pas juste pour certains, je veux dire, si certains sont nés en Israël et que leurs parents sont partis avec eux, Routz Laharet, ils n'ont pas eu le choix. Même,
ça, ce sont des comptes d'Akadosh Baruch Hu. Mais sache que c'est juste. Ça veut dire que si tu es parti d'Eretz Israël pour une raison quelconque, même si tu avais 4 ans, ça veut dire que peut-être dans une réincarnation d'avant, tu as fait quelque chose pour devoir quitter aujourd'hui et après devoir souffrir pour revenir. Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas. Ça, c'est une émouna. Il faut avoir conscience qu'Akadosh Baruch Hu sait exactement, au détail près, ce qu'il fait. Ok.
Vous avez dit que c'est un plus haut niveau de naître ici
Nahon.
Que de faire son aléa.
Nahon.
Quelle est la logique? On devrait dire l'inverse, puisque naître ici, il n'y a pas d'effort qui a été mis pour naître ici.
Ça, c'est toi qui le dis. L'effort était peut-être dans une autre réincarnation, où l'homme a tellement aimé cette terre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le mérite de naître ici. Toi, tu ne vois que le corps de maintenant avec l'âme de maintenant. Mais il faut voir l'histoire dans son complet. C'est comme si tu voyais un épisode et tu me dis, il n'est pas logique cet épisode. Oui, mais c'est le numéro 358 cet épisode. Tu as raté 358 épisodes avant. On te dit, regarde le film depuis le début, tu vas arriver maintenant, tu vas dire, ah ouais, alors là, comme ça, vu comme ça, ah ouais. Hein? C'est la même chose.
C'est du déterminisme.
Non, c'est pas du déterminisme. C'est parce que dans le corps d'avant, tu avais un choix. C'est pas déterminisme.
Vous dites à ce moment-là, alors tout ce qui est venu après la première épisode, c'était du déterminisme. Bon,
Non. On t'a mis dans la position maintenant de vivre. Non. C'est une récompense par rapport à ton effort. C'est pas déterminisme. Maintenant que tu es dans cette récompense, tu as encore le choix de te sauver. ou de la vivre. On te remet dans le même examen. Il n'y a pas de déterminisme. C'est toi qui choisis ta vie à chaque instant.
Mais justement, vous avez dit qu'il y a du déterminisme dans le sens où... Ah, il a,
pas de déterminisme. C'est une récompense. Il a mérité, donc il a fait un effort. Ce n'est pas un déterminisme. Il a fait un travail. Et même quand il a fait un travail, on lui a donné la bracha de naître ici. Alors, il est né ici maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? S'il prend la décision dans sa vie de quitter, il aura raté encore une fois son examen. Il n'y a pas de déterminisme. Ken?
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut voir que dans ceux qui sont nés en Israël, dans la jeunesse israélienne, la vraie, on peut voir qu'ils ont beaucoup moins de patriotisme que les Khadashim?
Ken, tu as raison. Il y a le Rav Kook parle de ce problème-là. C'est qu'il y aura un rejet de beaucoup de valeurs avant de réaccepter de nouvelles valeurs. C'est-à-dire que la dernière génération que nous vivons, c'est une question importante que tu viens de poser, la question est de savoir le phénomène. Et c'est pour ça que nous avons la chance, encore une fois, d'étudier. Car l'étude nous dit, et ça c'est tiré de la Kabbalah, pure, c'est que pour avoir quelque chose dans la vie, il faut qu'on te le retire. Et de temps en temps... Okay, on va te le retirer, c'est toi-même qui vas le rejeter. Un exemple, un enfant qui naît chez son père et sa mère, il naît, il est gentil, il est tout doux, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. 14-15 ans, il commence à se tordre. 15, 16, 17, 18, les parents, ils deviennent fous avec lui. Ils ne savent plus, on dirait que ce n'est plus leur enfant. Tout ce qu'ils ont enseigné à cet enfant, il a l'impression, le père et la mère, qu'ils rejettent tout. Le père n'a plus aucun poids, la mère n'a plus aucun poids. Et on se demande, mais c'est quoi ces enfants? Eh bien, c'est tout simplement un processus. L'enfant est obligé de rejeter tout ça pour redevenir adulte lui-même par choix, et après il va revenir et rechoisir par lui-même le père et la mère. Donc chacun de nous va passer ce processus. Donc la jeunesse israélienne a eu un rejet total, mais ce rejet maintenant est en train de se refaire prendre maintenant dans un nouveau degré. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, il y a un réveil extraordinaire de cette jeunesse israélienne qui tend à comprendre le sens profond de notre arrivée ici, de notre vie, de notre peuple, de notre nation. Notamment dans une étude très profonde de tout ce qui est relatif au secret de la Torah. Okay? Aujourd'hui, il y a une soif que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, le cours, on peut le donner ici à 30 personnes, mais sur Internet, il y a déjà 2-3 000. Vous comprenez ce qui se passe? Et il y a une soif extraordinaire. Donc, le rejet pour récupérer.
C'est comme la graine qui pourrit.
Donc, comme la graine qui pourrit. Tu plantes une graine dans la terre, elle pourrit pour après repousser. Donc, il y a un passage qui fait très peur, et tous les pères et les mères ne vont pas me contredire. Ils ont tous cette angoisse parce que l'enfant, tu as l'impression qu'il est en train de te filer entre les doigts, tu ne comprends plus rien. À 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'au moment où il commence à vieillir un peu et il commence à revenir, tu te dis, ah finalement, il n'était pas si mal que ça, j'avais peur. Et cette peur peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend des enfants. Ils font des crises à leurs parents et la même chose, on est en train de faire une crise à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est une crise d'adolescence. Et Kadosh Baruch Hu a de la patience, il est un grand père, il sait exactement comment éduquer ses enfants, et il sait que ça fait partie du processus. Donc ne vous inquiétez pas, le peuple d'Israël n'est pas en train de se sauver de ses racines, au contraire, il est en train de repousser tout ce qu'on lui a donné de force pour choisir les choses de lui-même. Donc il devient adulte.
Ken? Il y a un moyen de voir le film passer, quoi. Tout à fait.
Il n'y a qu'à voir le film de notre passé et de savoir ce qu'on a passé nous-mêmes et toutes les...
Non, les vies antérieures.
Ah, ça aussi, on peut le voir, bien sûr. Ça, c'est par l'étude. Quels les gens qui approfondissent... Non. On n'appuie pas sur un bouton, mais les gens qui étudient les parties, la face cachée de la Torah, peuvent arriver à ce genre de niveau-là, de savoir exactement pourquoi ils sont venus dans ce monde, mais c'est encore un sujet qui est beaucoup plus profond. On ne va pas toucher des choses qui, pour l'instant, ne sont pas de notre niveau. Mais ça existe. Donc, Alors, וכן הדבר כאן, אם ייכנסנו לארץ ישראל, הרי נכנסים אנו למציאות אחרת כללית, עליונה וקדושה, מחייבת בהכרח תהליכים של התבגרות והתפתחות. Donc maintenant, ça nous oblige, cet accès dans ce nouveau domaine, de grandir, de devenir mature et de nous développer ad leitmazgutenu hashlema im haaretz, jusqu'à ce que la terre et nous ne fassions qu'un. Il n'y aura plus de différence entre moi et la terre. Tu appuies sur la terre, j'ai mal. Est-ce que vous ressentez pour l'instant cette douleur ou pas encore? Quand vous allez ressentir cette douleur, c'est que vous et la terre, vous êtes un. Que vous ne pouvez plus concevoir de parler de la Torah sans parler de la terre d'Israël. Que vous ne pouvez plus concevoir de parler du peuple d'Israël sans parler de sa terre. Et que vous ne pouvez plus concevoir de croire que des gens peuvent développer une Torah en dehors de cette terre, dans une petite yeshiva à Brooklyn. Qu'ils doivent comprendre que c'est ici que ça se passe. Quand ça va commencer à te toucher, qu'il n'y aura plus de différence, tu ne pourras plus faire des séparations entre les choses, que tu comprendras que le peuple, la terre et la Torah, c'est une seule et même chose, là, jusque-là, tu n'auras pas de repos. C'est là la souffrance. Im nishmatenu achadasha, et tout cela par notre nouvelle âme. Le problème, et là je vais vous dire le problème, tant que tu n'as pas reçu cette nouvelle âme, qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne peux pas avoir ce genre de référence. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui m'entend et qui n'est pas sur la terre d'Israël, il ne peut pas vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu encore ce changement d'âme. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « Ta'amu ur'u kitov ». Tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Car on est en train de parler un autre langage. Et il se peut que quelqu'un est en train de m'écouter sur Internet maintenant et il se dit « Mais il est fou, de quoi il parle? Moi, je ne ressens pas ça. Je suis tranquille, moi, dans mon petit village. » En Poitou-Charentes. J'ai ma petite communauté, j'ai une petite boucherie cachée. Et il ne comprend pas de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore eu ce changement. Donc il ne peut pas accéder à ce degré. Ce n'est pas que c'est supérieur ou inférieur, Chas v'shalom, je ne suis pas en train de dire. C'est tout simplement autre chose. La neshama individuelle, elle peut juste ressentir des choses du loin, une volonté, mais elle ne peut pas vivre véritablement à ce niveau-là. C'est ce qui s'est passé quand tu es venu ici.
La volonté, elle était là.
Tout à fait. Tu as une neshama qui a eu un appel, mais qui l'a appelé en fait? La neshama globale, elle a sonné du shofar pour ta neshama individuelle qui était loin. Et tu t'es levé un matin, tu as dit « Papa, maman, j'ai entendu un shofar cette nuit. » C'est la grande âme d'Israël qui m'a appelé. Okay? Ta mère te regarde avec des yeux, elle se dit « Il est devenu fou, mon fils. Okay? » Et tu lui dis « Maman, il faut que je parte. »
Okay?
Et c'est ça exactement ce qui se passe. Mais pourquoi toi tu as entendu et l'autre non? Parce que ta neshama était plus sensible, tu as fait quelque chose en toi qui a aiguisé, qui a ouvert, qui a rendu perméable ton être. Donc tu as entendu le shofar. Okay?
En fait, la différence c'est qu'à Paris on est juif, ici on est des Israël.
Exactement. Là-bas on est une religion, ici nous sommes un peuple. C'est-à-dire? On n'est pas venu sur cette terre pour servir le Shulchan Aruch. On est venu ici pour servir Akadosh Baruch Hu. On n'est pas ici comme des robots à faire des mitzvot. On est ici parce que nous devons vivre au niveau de notre peuple et en même temps pratiquer les mitzvot, mais pas les mitzvot, les mitzvot du peuple. Et on comprend les mitzvot avec un autre œil, un autre degré. C'est les mêmes mitzvot apparemment, mais ils ont monté de niveau. Quand tu mettras les tefillines, tu ne les mettras pas comme un homme individuel dans un petit coin. Tu les mettras parce que c'est l'acte de toute ta nation qui passe par toi maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de mitzvot individuel. Ce sont des mitzvot de la nation d'Israël que toi, individu, tu es en train de faire maintenant. Okay.
Donc ça veut dire que ceux qui sont en route de la reste ne font plus partie du peuple d'Israël.
Au niveau de la nation, ils font partie, mais ils ne vivent pas à ce niveau-là. Ils ne vivent pas au niveau de la nation d'Israël. C'est-à-dire la partie peuple est endormie chez eux. Et donc la partie individuelle, c'est la seule qui est restée un tout petit peu réveillée. Et il faut rejoindre la partie du peuple, la grande neshama de Am Israël. Moralité, le Sifri dit que si je mets les tefilines en dehors d'Eretz Israël, c'est juste pour ne pas oublier.
Il n'y a pas la valeur de la mitzvah.
Il n'y a pas la valeur de la mitzvah. Ok? Okay.
Comment expliquer qu'au moment de la guerre des six jours, dans le monde entier, les Juifs ils se sont sentis concernés par ce qui se passait ?
Encore une fois, c'est la même question que lui, c'est-à-dire l'individu entend qu'il se passe quelque chose, et la preuve c'est qu'ils sont titillés par ce qui se passe ici, c'est-à-dire il y a quelque chose en eux. Car qu'est-ce que c'est la petite Neshama que j'ai en moi ? Elle fait partie de la grande Neshama de mon peuple. Donc lorsqu'il se passe quelque chose dans la grande Neshama de mon peuple, il y a une résonance ici. Donc j'entends et je sors manifester et je suis content parce qu'il se passe en Israël quelque chose. Donc les Juifs de France vont ressentir quelque chose. Mais grâce à quoi ? Grâce à les Neshama qui se trouvent ici, qui de temps en temps envoient ces rayons, tout le temps envoient ces rayons, et de temps en temps ils sont perturbés par ce qu'il se passe ici. Et donc ils sont touchés. Jusqu'au moment où ils ne pourront plus vivre comme ça, ils se disent, attends, j'ai plus envie de recevoir des petits éclairages de temps en temps. J'ai envie de vivre pleinement ce degré-là tout le temps. Et c'est là où tu fais ton alliance.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une double Neshama ? Il n'y a pas deux Neshama qui sont liées, une qui appelle l'autre et quand elle arrive...
Ce n'est pas une double Neshama, c'est tout simplement un grand soleil, c'est la Neshama qui se trouve ici, qui envoie des rayons. C'est tout. Donc la Neshama individuelle de l'homme juif n'est qu'un rayon du grand soleil de la Neshama qui se trouve sur cette terre. Moralité, si tu éteins le grand soleil, il n'y a plus de rayon. Est-ce que le rayon du soleil existe ? Non, c'est le soleil qui rayonne. Ça n'existe pas les rayons du soleil, on est d'accord ? C'est un soleil qui rayonne. Non, éteins le soleil, il n'y a plus de rayon. Éclaire le soleil, le rayon arrive. Mais on n'a jamais vu un rassemblement de rayons pour fabriquer un soleil. Vous comprenez ? On ne peut pas rassembler des rayons et on se dit, tiens, il y a un rayon ici, prends-moi un rayon, on va faire un soleil. Non, ça n'existe pas. De la même manière, on ne peut pas rassembler des juifs et faire un peuple. Le peuple existe avant. Le peuple, c'est le grand soleil. C'est la nation d'Israël. C'est ça, le grand soleil. Okay.
Comment expliquer alors qu'il y a des bombes là qui sont... D'accord.
Il faut leur poser la question.
Ils font des chivas, tout ça.
Il faut leur poser la question.
Ils ont un niveau, un tel niveau qu'ils peuvent percevoir quelque chose.
Ok. D'accord.
C'est très fort.
D'accord. Je n'ai pas de réponse. Il faut leur poser la question. Une femme un jour m'a dit à Nice... Quand j'ai donné un cours, monsieur le rabbin, comment ça se fait que les gens qui parlent comme vous, ils ne viennent pas nous donner des cours ici ? J'ai dit, parce que ma petite madame, tous les gens qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Il y a des gens peut-être qui sont dans un degré au niveau de tzidkout, de sainteté individuelle, très fort en Torah, mais au niveau de la collectivité du peuple d'Israël, ils ne jouent pas leur rôle. Chazé Shalom, je ne peux pas juger, je dis peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Est-ce qu'on sait par l'étude qui sont dans les
erreurs ? Moi, je pense, mais je ne peux pas aller... Je peux juste donner une conférence, dire la façon de penser de la Torah des secrets. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne ce secret. C'est du Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est du Zohar ce qu'on est en train de faire là.
Donc c'est la vérité.
Mais vadaï, c'est la vérité. Vadaï, c'est pour ça qu'on nous donne des cours. Je peux que le faire par éducation entre guillemets. C'est pas que je suis un éducateur, mais je me dois de partager cette vérité pour sauver mon peuple. Okay.
Est-ce qu'une personne peut se dire, à partir du moment où je pars par exemple, de France à l'heure actuelle, donc je tiens une petite communauté, toute cette communauté-là va lâcher, à ce moment-là, il y a un grand risque.
Okay. Plus rien, c'est pour ça, tu es d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il faut, en donnant des cours à cette communauté là-bas, donner une direction à ta Torah. Le problème, c'est que les cours qui sont donnés là-bas n'ont pas de direction de la terre. Quand on ouvre une paracha, on va lire un passage de la paracha sans aucun rapport avec le peuple ni la terre. Tu vas prendre la mitzvah en tant que telle, tu vas la développer. Dans cette paracha, on va prendre les tzitzit et les tefillin. On ne va pas te dire que la mitzvah de tzitzit et tefillin, ça a un rapport avec le peuple, non. Tu vas te lever le matin, tu vas mettre ton tzitzit, tu vas mettre tes tefillin, tu vas faire une grande mitzvah et tu auras chelek leolam haba. Voilà. Tu es content, tu as fait ton truc. Et dans l'histoire des explorateurs, tu vas pas te dire aujourd'hui on est dans le même film. Non. J'étais à Marseille, moi, pendant la paracha des explorateurs pour faire un séminaire. J'ai entendu un discours là-bas, dans une synagogue, un Shabbat. Les explorateurs, ils ont fait ça, donc ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. En fait, le type, il parlait de lui-même peut-être. Mais il savait pas. Il n'y a pas de rapport. C'est une histoire qui s'est passée là-bas, mais tu n'as rien appris. Tu n'as pas compris le message. C'est bizarre, c'est grave. Il y a un problème. Quand tu ne donnes pas la Torah l'accès à à ton histoire, aujourd'hui actuelle, en réalité, tu fausses l'histoire. Tu fausses l'histoire, tu racontes, en réalité, c'est comme si la Torah, et malheureusement, c'est ça, la Torah est devenue un ensemble de mitzvot. C'est tout. Pour beaucoup de gens, la Torah, c'est un livre de mitzvot, un livre de loi. C'est ça la Torah, Chas v'Shalom. La Torah, c'est un livre de loi. Kadosh Baruch Hu n'avait rien à faire, il nous a donné des lois. Mais la Torah, c'est la vie. Les lois, c'est qu'un dérivé de tout ça. Et toi, tu as fait du dérivé l'essentiel. Ça veut dire, quel est l'essentiel dans la Torah? Les mitzvot. Mais pas du tout. L'essentiel de la Torah, c'est la vie de cette Torah. C'est ce que tu fais. Les mitzvot, c'est une application de cette vie-là. Ne fais pas l'inverse. C'est comme avant, le jogging, c'était un moyen pour se sentir bien. Aujourd'hui, c'est plus le moyen, c'est le but. Tu fais du jogging, c'est tout. Les moyens sont devenus des buts. C'est de la avodah zara. Tu sers les mitzvot, tu ne sers plus Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, même quand vous étudiez la Torah. Il faut savoir à chaque instant, quelques fois dans la journée, d'arrêter votre étude et de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette étude. Je suis en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu de dévoiler sa lumière sur terre. Je peux être pris tellement profondément dans une sugya de Gemara que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Rabbi Yehoshua et Rabbi Meir. Et je joue avec les doigts. Et il a dit comme ça, et toi tu as dit comme ça. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu oublies, ça t'intéresse. Donc tu es rentré là-dedans, tu es en train de te faire plaisir. Rappelle-toi que tout ce que tu es en train de faire, Rabbi Meir, Rabbi Yehoshua, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu dans ce niveau de tzadikim pour nous donner la vie. N'oublie pas ça, sinon ça va être encore une sagesse comme d'autres sagesses à l'université.
Mais c'est très dangereux.
De quoi?
D'étudier comme ça profond que tu étudies juste pour étudier, plus pour étudier pour Hachem.
J'ai pas compris. C'est...
Pour vivre. C'est dangereux de t'intéresser comme ça dans la mitzvot, que c'est juste pour la mitzvot.
Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas plus grand danger que ça. Quand tu commences à servir les mitzvot, tu oublies de servir Dieu. Vous avez, c'est pas moi qui le dis, c'est inversé. Hein. Vous avez fait mes mitzvot et vous m'avez oublié. Comme ça dit le verset. C'est extraordinaire quand même. Ken.
Pour revenir tout à l'heure sur le fait qu'il y a des grands rabbanim en route de la Rez,
okay.
Pourquoi, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas?
Ouais.
Je pense qu'il suffit de comprendre un petit peu la Torah d'Eretz Israël, plutôt que de... C'est beaucoup plus bienfaisant que de connaître toute la Torah de route de la Rez.
Alors, ce que tu dis, en réalité, je vais vous dire, il se passe un phénomène. Quand la Torah d'Eretz Israël... En fait, qu'est-ce que c'est la Torah d'Eretz Israël? La Torah d'Eretz Israël, il faut mettre les mots, okay, parce qu'on parle de la Torah d'Eretz Israël, mais on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas la Torah que tu étudies ici. Tu peux étudier la Torah d'Eretz Israël ailleurs. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Kabbalah. C'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël. Eh bien, il se passe un phénomène extraordinaire. Quand quelqu'un va toucher à la Torah d'Eretz Israël, même en dehors de la terre d'Israël, il va être aspiré à revenir ici, immédiatement. Il va comprendre qu'il est en décalage avec sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Quand je vais à un séminaire, quand vos rabbanim vont à des séminaires, qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas? La Torah d'Eretz Israël, qui a été habillée dans la Torah du Rav Kook. Le Rav Kook, c'est que du Zohar, habillé avec des mots modernes, poétiques. Mais c'est du Zohar, c'est de la Kabbalah. Le Rav Kook a amené la Kabbalah à un niveau, et il va parler ce langage. Et quand vous enseignez cette Torah en dehors d'Eretz Israël, vous allez amener avec vous beaucoup de gens. Il y a même des gens dans cette pièce qui sont revenus grâce à ce genre de séminaire.
Okay. Mais il y a quand même une forme d'inégalité, comme disait Elie, parce que là, partout, je vous ai dit qu'il y a des neshamot pratiotes et des neshamot klaliotes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce message.
Tout à fait.
C'est pas leur faute quelque part si...
Nahon, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils grandissent. C'est-à-dire qu'il y a dans chacun de nous un lien, de toute façon. Il y a toujours un lien, même si c'est une neshama pratit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la neshama klalit. Mais seulement sa neshama pratit est tellement en exubérance qu'il a en fait éteint un petit peu la neshama klalit. Et il faut tout simplement changer de temps en temps d'étude. Au lieu d'étudier ce qui va te renforcer ta neshama pratit seulement, Je vais donner des choses claires pour que ce ne soit pas en l'air. Au lieu d'étudier toute la journée la Gemara et la Mishnah seulement, ce qui est important, étudie aussi, pendant ta journée d'études, de la Emouna, étudie du Kuzari, étudie Orot HaTshuva, étudie du Rav Kook, étudie de Rabbi Yehuda Halevi. Eh bien, ça va te donner un éclairage, ça va commencer à éclairer ta neshama clalite qui a été dans la poussière pendant des années et tu ne l'as pas touchée. Nous avons cette neshama, elle est dans un coffre. Il faut tout simplement l'exciter. Toucher un petit peu, ça va se réveiller. Et pour ça, il faut étudier les livres qui excitent cette neshama, qui la réveillent.
Exciter.
Okay? Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier aussi, dans ta journée d'études, dans ton seder limoud, apporte aussi cette Torah-là. Et je te garantis que si tu fais ça, tu vas réveiller cet autre aspect de ta Torah hilchatit seulement. Ta Torah est devenue une halakha, tu vas lui donner aussi le côté emouna. Et alors là, tu vas être équilibré dans ton étude. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui mange. On n'a jamais vu des gens manger que des entrées pendant 40 ans. Après, ils se disent, bon, j'ai 40 ans, il faut que je commence à manger quand même des plats principaux pendant 40 ans aussi. Et après, les dernières 40 années qui restent, ils se disent, je vais manger que des desserts. Okay? Vous comprenez, vous rigolez vous-même. À chaque repas, tu as une entrée, un plat principal et le dessert. Tu dois faire la même chose dans ton étude. Pshat, remez, drash et sod, à chaque fois que tu le peux. Et là, ta Torah sera équilibrée, remplie et avec une vision globale. Toda Rabba. Thank you.